Bonjour à toutes et bonjour à tous. Les petites lues d'Islande vous cueillent une nouvelle fois sur les 3-8. Aujourd'hui, les mots semblent manquer pour vous parler des origines de la langue qu'il est si plaisant d'entendre en Islande. Dans cette nouvelle de Thoranín Eldjarn, nous en apprenons plus sur le sens des mots, qui ne fut pas toujours aussi évident qu'aujourd'hui à saisir. Le sens des mots, une nouvelle contée par Alexandre Chorderet.
Il était une fois un bourg où personne ne parlait la même langue. Personne n'usait du même mot pour désigner la même chose. Tout le monde pourtant se comprenait, et chacun vivait paisiblement, en harmonie avec les autres. La joie de vivre, la bonne humeur des habitants étaient notables, et, si incroyable que cela puisse paraître, ils étaient bavards. Le bourg était situé dans une région innommée du centre de l'Europe centrale. Elle était restée sans nom. Si profondément encaissée depuis des lustres, qu'elle avait au mieux été représentée par un trou noir sur les cartes. À vrai dire, le plus souvent, elle n'avait pas été représentée du tout. Cette caractéristique intrigante attira finalement l'attention du reste du monde. Mais l'élite des linguistes, elle-même, ne put l'interpréter de façon satisfaisante. Et encore moins les autochtones, incapables d'apporter le moindre éclaircissement. La question ne se posant de toute façon pas pour eux. Chacun et chacune parlait leur propre langue, là était la normalité, l'évidence. On sait malgré tout que des explications géographiques pour les uns, politiques pour les autres, avaient déjà été avancées. Selon d'anciennes sources, en effet, la localité en question avait jouxté un certain nombre de pays. Le temps avait passé et l'histoire l'avait ballotté de l'un à l'autre, sporadiquement, revenant même parfois sur ses pas. Plus que tout autre territoire, celui-ci avait été la pomme de discorde d'une querelle de contrées limitrophes et de peuples à l'approche. Extension, inclusion, intersection, combinaison, exclusion, ainsi que d'innombrables entités politiques, importantes ou ridicules, érigées puis tombées au fil des jours. Duchés, grandes puissances, empires, pays ancestraux, républiques, principautés, terres bénies. Et enfin, alliances étatiques en tout genre, sacrées ou profanes, séculaires ou contemporaines. Un ponte de l'élaboration des atlas historiques avait bien tenté l'impossible en essayant de faire une cartographie évolutive de la région et de ses frontières. Après des années de recherche, il s'était trouvé face à une carte où figurait un micmac invraisemblable de lignes, fort semblable à un patron de couture de chez Burda, le gros magazine. Et d'ailleurs, son épouse, l'ayant utilisé par erreur, avait réussi sans peine à réaliser un tailleur, un blouson et deux robes de soirée avant de comprendre sa méprise. Quoi qu'il en fût, les habitants du bourg avaient eu durant des siècles l'expérience de tous les types de gouvernements répertoriés. Ils furent ainsi confrontés à la monarchie, l'autocratie, la tyrannie, la démocratie et au gâchis, pour n'en citer que quelques-uns. Ces bouleversements, exactions et revirements, réformes et révolutions, allait de pair avec une grande confusion. Les habitants se lassèrent bien vite des incessants changements de langue en fonction de ce qui les gouvernait. Et comment et pourquoi ? Ils finirent par se convaincre qu'il valait mieux pour chacun garder sa propre langue que nul ne pourrait lui ravir. Cette attitude exprime sans doute une forme de résistance. Dans un monde improbable, l'homme s'accorde coûte que coûte à ses fondements et recherche inconsciemment à cultiver sa langue, celle qui lui est la plus proche même que sa langue maternelle, l'autolangue, celle avec laquelle il pense. Oui, en effet. Qui pourrait l'interdire ou lui porter atteinte? C'est une explication plausible, mais il en existe peut-être d'autres, à moins qu'il n'y en ait pas. Les habitants n'avaient aucun savoir sur la question, et comme je l'ai dit, ne savaient même pas s'il y avait quelque chose à savoir. L'accès au langage se déroulait sans problème, comme partout ailleurs. Après tout, les bébés sont de vrais perroquets. Chaque nourrisson, s'éveillant progressivement à la conscience de soi, se découvrait une langue du côté de la mère et une autre du côté du père. Les aînés de la fratrie eux-mêmes avaient chacun la sienne, grand-père en parlait une, grand-mère une autre, et les nounous y allaient chacune de leur chute et de ces là, là, dans une langue inédite. Le babillage des petits évoluait vers une langue originale, inouïe, que l'enfant instinctivement savait devoir être unique. Ainsi, tout était clair. Là-bas, c'était comme ça à l'époque. Personne ne voyait dans les mots un outil de communication. Contrairement aux gens normaux des histoires normales, la langue n'était pas, pour ces natifs, un système relevant d'un consensus sur la signification de chaque mot. Il s'agissait plutôt du reflet direct de la conscience de celui qui parlait. Les mots n'étant qu'un seul des nombreux signes communs employés pour faire comprendre à autrui sentiments et désirs, émotions et attentes, la compréhension n'était fondée sur rien de littéraire. La signification se transmettait par des échanges complexes de regards, mimiques, gesticulations et inflexions vocales à chaque émission de phonèmes dont le sens n'était immuable que pour le locuteur. Ce contexte influençait les comportements des habitants, qui pouvaient ainsi exprimer toute chose importante aussi aisément que n'importe qui, à condition que chaque protagoniste s'impliquât complètement dans l'échange. Une situation qu'on aurait pu croire propice à éloigner les gens et à favoriser l'individualisme produisait finalement des effets opposés. L'incompréhension générale avait accru les capacités de compréhension et d'engagement de tous. Il n'y avait ni dictionnaire, ni livre, ni texte écrit. Les habitants étaient évidemment tous illettrés puisque leurs écrits n'avaient jamais pu s'adresser qu'à eux-mêmes. Il ne manquait pourtant ni d'histoire, ni de poèmes, ni de pièces de théâtre. Comment auraient-ils pu vivre sans ? Ils avaient une haute image des textes en général, mais leur publication était nécessairement orale, physique, mise en pratique. Comme dans n'importe quelle prise de parole, l'expression du visage, l'apparence et l'attitude globale étaient lourdes de signification. Et si les mots n'avaient pas de sens assigné, sauf pour leur auteur, leur sonorité avait de l'importance. Les gens avaient l'oreille sensible à la beauté du langage. Et certains, notamment d'excellents poètes, usaient d'une langue particulièrement belle. Ils l'agençaient en des compositions pleines d'harmonie qu'ils déclamaient avec plus de grâce et d'humour que les autres. C'était le bonheur dans ce bourg. Ses occupants y vécurent heureux pendant la quasi-totalité du siècle dernier. Travailleurs modestes et satisfaits, cultivant les terres avoisinantes, ils étaient alors sous l'égide d'une grande puissance, ni vraiment libre, ni démocratique à proprement parler, mais faisant preuve d'une totale indépendance et ne posant aucun problème. Ils n'avaient pas été ennuyés. Ils ne montraient en outre aucune once de nationalisme. Le puissant pays pouvait dormir tranquille et ne cherchait pas à imposer sa langue dans la comté. Quelques rares inspecteurs dépêchés sur place, ou des touristes arrivés là par erreur, remarquèrent que ces gens heureux et bien portants avaient l'air illettrés, ce qui n'était guère en adéquation avec l'idéologie de la grande puissance qui prenait l'éducation pour tous. Mais on laissa faire. Personne ne pouvant maîtriser leur prétendue langue, que tout le temps, les étrangers de passage, incapables de saisir un seul mot dans ce bourg, avaient considéré comme une langue unique. Ce qui, somme toute, était cohérent, à en juger par le degré de compréhension et de conviction qui émanait des conversations et par la richesse des traditions orales. On peut lire dans certains récits de voyages anciens les regrets d'explorateurs qui n'ont pu saisir cette langue si complexe et hermétique, entre autres à cause du manque de sources écrites. Mais tous sans exception s'étonnent d'avoir été si bien compris alors qu'ils s'exprimaient dans leur propre langue. Pour des raisons obscures, les autochtones comprenaient sans problème tous mes souhaits quand je les exposais lentement et précisément, m'aidant de quelques gestes dans ma langue maternelle, la plus pure et irréprochable qui soit. Écrit par exemple le révérend Ketil Dokelson, dit le voyageur d'Arabie dans son journal de bord du XIIIe siècle. Oui, la vie était belle. Le soir, les habitants se retrouvaient au café et conversaient chacun dans sa langue. Un garçon et une fille se regardaient dans les yeux. Il disait « Je t'aime » dans sa langue, quelque chose comme « Lanas navil filo ». Elle le comprenait instantanément et répondait par la même chose, mais dans sa langue à elle. Par exemple, Sangran spiru adver. Les nuances de voix et l'expression du visage ne laissaient aucune place à un malentendu. Puis tout à la fin du siècle dernier, vient discrètement s'installer au bourg un linguiste renommé. Le continent venait d'être secoué par maints chambardements politiques, comme souvent auparavant. La grande puissance avait soudainement périclité et tout bonnement disparu. De nouvelles coalitions se formèrent, modifiant la situation du petit bourg. Les anciennes frontières s'évanouirent, remplacées en partie ou totalement par d'autres, plus anciennes encore, mais qu'on avait récupérées. Ce qui avait été une bourgade perdue au milieu de nulle part resta une bourgade perdue, mais située sur une voie de passage. Parallèlement aux mutations politiques, avait eu lieu une révolution sans précédent dans le secteur technologique. Notre linguiste y était impliqué au premier chef, et un soir, alors qu'il cherchait sur Internet un projet de doctorat intéressant, il tomba par hasard sur un texte décrivant cette langue mystérieuse et difficile d'accès. Son intérêt fut aussitôt piqué, et il entrevit le potentiel qui s'offrait à lui quand il découvrit aussi que la région venait d'être rendue accessible après des dizaines d'années d'isolement. Cyber bingo. Quelques jours plus tard, il était donc sur place et put commencer sa recherche. En collectionnant des échantillons de paroles, il comprit tout, petit à petit, et en fut abasourdi. Une fois levés les derniers doutes, il changea son projet, abandonnant sa vocation de chercheur et se posant comme sauveur des lieux. Il aiderait ces gens-là à s'accommoder au temps moderne. Il obtint vite et de partout des subventions importantes, trouva une méthode pour rassembler tous les mots de tout le monde et établit un logiciel de traduction qui, vite fait bien fait, traitait dans le détail ce qu'un individu disait à un autre. Il en résulta une langue écrite, ou plutôt une langue logicielisée. Tous les habitants du bourg apprirent à lire et on les pourvut de petits ordinateurs portables. Fit-on vraiment le bien de tous? Non, loin s'en faut. Toute conscience au son des mots s'était envolée au privilège du sens. On compulsait à tout bout de champ, des mots oubliés furent réintroduits, et on se rendit compte qu'ils avaient été mal entendus. L'anas na virfiro ne signifiait pas tout à fait « je t'aime », mais plutôt « je t'aime bien, peut-être, parfois ». Ou à peu près. Et la réponse « sangan spiro adver » se révéla un total contresens quand on vérifia scrupuleusement l'enchaînement des syllabes. Des familles furent ainsi éclatées, des amitiés dissoutes, des désaccords enfouis furent révélés. Sans savoir lui ayant conféré une place déterminante, le linguiste devint maire de la ville. Il est également directeur de la banque des mots où se règle tout conflit. « Pas de place pour l'approximation, » dit-il. Mais la vie du bourg a bien changé. S'est détérioré, vraiment. Tout choix a disparu. Les regards sont dénués d'éclat, aucune ébauche de sourire sur les visages. Fermés les cafés. Chacun s'occupe de ses affaires, en gardant surtout une figure de marbre, tout en demeurant attentif aux documentaires des autres. D'ailleurs, on ne peut plus vraiment parler d'un bourg. Il ne reste que quelques maisons où vivent des gens qui n'ont rien en commun, hormis de couper les cheveux en quatre. La plupart d'entre eux suivent des cours de langue universelle et veulent déménager.
Berjamó Leitum með vínu í lundin frá ígær Lindin þar niðar og virkir Ísland græð Leikur í ljósum Lokum og ángandi rósum Leikur í ljósum Lokum hinn vakandi blæð
C'était Les Petites Lues, une série de nouvelles islandaises proposées et contées par Alexandre Chorderet. avec Mario Bompard à la réalisation. Vous pouvez retrouver cette nouvelle et ses références musicales sur le site de Radio Grenouille. Belle journée à tous sur les 3-8.
Hjärtur glitra dalen færi stró draumar þess rætast sem gistir vakla skó og klær rauðu skinni á krækilingislar.